Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du studio de Mediapart pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Quintane. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, poète et de chaussures. Votre premier livre, en passant par Tomate, votre inventaire personnel s'enrichit en ce début d'année 2021 d'un hamster plongé dans les couloirs et les salles de classe d'un collège. Un hamster à l'école qui est publié aux éditions La Fabrique et constitué de vignettes mais en vers, constitué à partir de plein de situations scolaires. Le livre est composé de, est traversé de différentes voies, la prof à la piscine, la prof en réunion syndicale, le ou la prof en train de faire une dictée et on voit apparaître ça et là les voix des collègues, celles des proviseurs, celles des enfants mais aussi celles des parents d'élèves. Ce qui fait que cet essai poétique donne un peu le sentiment d'être autant une autobiographie qu'une autobiographie collective. Pour en discuter également, Lise Wagemann, bonjour.
Bonjour.
Notre journaliste littéraire de Mediapart. Alors, moi j'ai compté, Nathalie Quintane, 24 livres publiés, je peux peut-être me tromper pour vous, mais en tout cas vous faites le compte vous-même que vous avez passé 53 années dans l'éducation nationale, entre élèves, étudiantes et profs. Pourquoi avoir mis tant de temps à écrire sur l'école ?
Parce que c'est comme la lettre volée. C'était, elle était tellement en évidence sur la table que je préférais ne pas la voir. C'était un gros morceau quand même, comme on dit, hein, de s'attaquer à ça. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, comme vous l'avez dit, hein, le livre n'est pas spécialement centré uniquement sur l'expérience de l'enseignante que je suis depuis presque 30 ans. Oui, ça doit être ça. Mais que ça a débordé sur... l'adolescente, presque l'enfant que j'ai été, et l'élève évidemment, et que en fait, il me semble que ce qui demeure en sourdine dans tout le livre, y compris quand je fais état d'expériences récentes, c'est cette voix d'adolescente ou encore une sorte de voix un peu jeune qui est là tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est cette voix-là qui continue à découvrir le monde, j'allais dire, alors le monde de l'éducation nationale, qui est simplement une institution révélatrice de la société dans son ensemble, comme n'importe quelle grande institution ou institution ancienne. S'il y a une espèce de ton tenu comme ça tout au long du livre, peut-être que c'est celui-là. C'est pas forcément la voix de l'adulte, c'est une autre voix comme ça. Et qui fait que ça, j'espère, ça garde cette espèce d'étonnement et de vivacité.
Alors, ouais, restons sur le ton. C'est vrai que la plupart des essais aujourd'hui publiés sur l'école, c'est des pamphlets. Vous, c'est pas un pamphlet, mais en même temps, c'est quand même cruel.
Bah alors oui, un côté un peu évidemment, quand on découvre les choses avec un regard un peu, j'espère, un peu lavé, même si c'est ça qui est paradoxal, c'est à la fois un regard très ancien, presque archaïque, et un regard un peu rincé, enfin ça c'est l'écriture qui rince peut-être le regard comme ça, en tout cas tel que je la pratique bien avant ce livre-là. Et je ne sais plus, évidemment, comme je digresse tout le temps, je ne sais plus l'origine de la question. Mais
si en dépit d'une certaine cruauté de,
ah oui, voilà,
de du regard, est-ce que c'est un pamphlet
qui est le genre
habituel des...
Ouais, ce qui me gêne quand on pose ça dans ce qu'on a fait, hein, ce que je comprends, hein, dans le genre du pamphlet, c'est que ça le tire vers le côté essayiste, pensé, articulé, avec une espèce d'objectif précis. Le livre n'appartient pas spécialement aux sciences humaines ni aux textes polémiques a priori. C'est un texte critique, mais comme les autres livres que j'ai sortis avant, qui allient une fantaisie, hein, réellement. C'est, bon, ça vient de Gérard de Nerval, qui a été très important pour moi, qui parlait déjà à son époque, hein, au milieu 19e, d'une fantaisie réaliste dans ces textes-là. Et puis, à cette espèce de notion de fantaisie réaliste, j'ai ajouté pour que ce soit plus audible aujourd'hui. Hein, moi, fantaisie réaliste me suffisait largement. Hein, mais bon, je me suis dit, bon, pour qu'on comprenne bien et que je me comprenne bien moi-même, il faudrait peut-être ajouter critique. Voilà, donc le côté pamphlet, il est dans cet adjectif critique. Mais voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas un pamphlet. C'est plus mêlé que ça. Hein.
Pourtant, ce que vous racontez de l'école ne fait pas très envie. Vous êtes un hamster qui tourne infiniment dans sa roue. Les profs sont des vampires qui sucent le sang de la jeunesse. C'est le secret de votre éternelle jeunesse, du reste. L'école est un lieu qui amortit la littérature. Enfin, ce sont des choses sur lesquelles on reviendra. Mais le monde change, mais les profs sont inamovibles, imperturbables. Quand ils ne sadisent pas leurs élèves, et vous donnez quelques exemples qui font en effet frémir... Donc tout ça fait un peu peur.
Oui, mais parce que vous avez cité une série d'exemples du côté obscur de la force, on va dire. Après, le livre est, je crois, beaucoup plus, comme je disais, mêlé. Il y a aussi des, je pense, des notations sensibles qui parlent des objets, hein, l'estrade, la trousse, le moment où le prof va à la piscine et où il entend la voix du maître nageur qui hurle sur les élèves et où ça lui fait remonter à lui, donc à moi, hein, enfin bon, je suis inclus là-dedans, bien entendu. Les poussées d'autorité qu'on a, voilà, de gueulantes qu'on pousse, etc. Tout ça, c'est dans le texte. Et je suis la première à être comme ça, comme vous l'avez dit. Hein. Le vampire, bon, voilà, mais évidemment, il y a un côté aussi drôle, je crois, hein, dans tout ça. Mais c'est une partie du livre. Hein, et j'espère que c'est pas l'essentiel. Ça ne vise pas... peu cher, comme on dit dans le Sud, à détruire l'éducation nationale, qui est en train de toute façon de se déliter, pas toute seule, hein, mais on n'a pas besoin d'ajouter un coup de pied de plus. C'est pas ça l'enjeu, hein, je crois pas.
À un moment, vous désignez, ouais, pour montrer un peu que c'est pas effectivement tout noir, vous dites que ce métier, ce boulot d'enseignant, il est détesté, envié, avec un tiret entre les deux. Il est autant détesté qu'envié.
Oui, je sais pas, c'est... je crois que... c'est un peu personnel ce que je vais dire, mais...
Vous avez le droit, là.
Oui, pour le coup, là, je peux. C'est exactement l'enseignement au collège, puisque c'est celui que je connais essentiellement. Hein. J'ai pas enseigné tellement ailleurs, même si je suis allée voir d'autres endroits. C'est de la vie, j'allais dire, tous les jours, quoi. Hein. C'est une énergie, et je crois que réellement que cette énergie-là, des adolescents, hein, pour le dire vraiment clairement, ce passage entre l'enfance et la fin de l'adolescence a nourri la tonalité de mes bouquins depuis le début. Alors il n'y a pas que ça, il y a une fois, voilà, il y a une certaine poésie, une certaine littérature qui est une littérature de vie, dynamique, pleine d'énergie, pleine de voilà quoi, de désespoir concentré. Et centrifuge, hein, voilà, centrifuge. Mais ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est, c'est ça, le vampirisme, hein, qui fait que ça nourrit aussi sa vie, son œuvre, en gros.
Mm. Oui, il y a de la vie, mais en même temps, on sent, il y a pas beaucoup de joie. C'est-à-dire, il y a votre, vous l'abordez de manière très caustique, c'est souvent très drôle. Enfin, on rit vraiment aux éclats en vous lisant, et c'est un peu inattendu pour un livre sur l'école de rire, parce que de rire d'intelligence, enfin c'est pas un rire. Et en même temps, ce que vous racontez est toujours un peu sarcastique, un peu inquiet. On se demande où est la joie de l'enseignant, où est la joie. Est-ce que l'école c'est un lieu où la joie est difficile à trouver?
Ah, il y a deux choses. D'abord, c'est un livre, voilà, j'ai 56 ans, 30 ans d'enseignement derrière moi. C'est pas un bilan, hein, parce que les bilans, ça voudrait dire que ça s'arrête là et je continue. Et ça continue, bien entendu. Donc, il y a sans doute aussi ce truc de, que je dis souvent, hein, bon, il y a quelque chose d'à la fois profondément en train de se casser la figure, hein, de se péter la gueule dans cette institution. Volontairement, évidemment, et une masse quand même des collègues que j'ai connus depuis les débuts, qui, me semble-t-il, mais je ne suis pas la seule à le penser, sentent pas très bien ce qui est en train de se passer, ou jusqu'où ça c'est en train d'aller. Donc le livre, il y a aussi sans doute cet objectif de tirer une dernière fois la sonnette d'alarme. Parce que quand j'écris des bouquins ou quand je discute avec mes collègues et les parents et tout le monde, je ne cesse, et je suis pas la seule évidemment depuis des années, de dire attention, Là, ça va faire comme La Poste dans les années 90, les cheminots, France Télécom. Attention, là, il va falloir faire quelque chose. Donc, peut-être c'est ce côté-là aussi qui donne cette tonalité un peu dernière tentative pour alors, réveiller qui peut l'être.
Ce serait quoi, alors, une école à ta sauce, une école à laquelle vous aspireriez?
Oui. Bah, alors, de toute façon, une école, j'allais dire, parfaite dans une société telle qu'elle est, déjà, c'est tout à fait impossible. L'école, c'est une institution qui, voilà, comme on l'a dit, qui est dans une certaine société. Tant que les choses ne bougent pas au bord ou qu'il n'y a pas réellement d'interrogation globale de tout le monde à nouveau frais sur la manière dont on entend faire société, l'école, bon, ça sert, au fond, ça sert pas à grand chose, à mon avis, d'essayer de, oui, alors c'est sympathique de faire travailler les enfants ensemble, c'est sympathique d'introduire un petit chouïa de Montessori, on poivre un peu avec un bout de Freinet, d'il y a Mathusalem et tout ça, et puis on se dit, oh là, ça va,
voilà. Des pédagogies alternatives.
On prend, voilà, un petit bout de pédagogie alternative. Sauf que ces pédagogies-là, il y avait un vrai projet, il y a tout un ensemble. Si on les découpe en morceaux et si on met tel petit morceau là, là ou là, si en perdant de vue le projet global qui était à l'époque un projet de changement de société, hein, de changer la vie, comme on dit, ça peut pas réellement marcher, je crois pas. Donc, je vais vous dire un truc, c'est que cette semaine, pour un travail que je dois faire, J'ai vu pour la première fois une série de vidéos qui avait été tournée par Godard dans les années 70, au milieu des années 70, pour la télévision France Tour des Tours, qui était un travail de commande. Mmh. Et donc, où il apparaît, c'est des formats courts d'une vingtaine de minutes, des enfants de l'époque qui ont 8, 9 ans, une petite fille, un petit garçon. Et Godard leur pose des questions. Alors, c'est des questions souvent assez fermées. Bon, est-ce que tu penses pas que nanana? Donc, la petite gamine répond oui, non, peut-être pas. Bon, ça, c'est assez drôle. Il y a une résistance de l'enfance qui est très intéressante dans ce film. Mais ce qui m'a surprise, c'est que, on a beau le savoir, ça surprend toujours, c'est l'ampleur des questions qui sont posées, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, je vous donne un exemple, Godard, il lui dit, bon, alors, quand on a un proche à l'hôpital, on peut aller le visiter à l'hôpital, t'es d'accord? Elle répond oui, c'est vrai. Bon. Quand on a un proche en prison, on peut aller le visiter en prison. Oui, oui, c'est vrai. Et puis il continue comme ça, et à la fin, il dit mais à l'école, on ne peut pas venir vous voir. Elle dit ah non, on ne peut pas. Ça soulève des questions dont on n'a plus idée, en réalité, de les poser, parce que là, les questions sur l'école sont prises dans une sorte d'enclos qui est, alors, la méthode de lecture, laquelle on va choisir, et les dictées, on va en faire plutôt une ou deux par semaine. On est dans les questions sont prises dans quelque chose qui nous retient, qui nous contraint, et... peut-être que le premier pas, mais ça c'est un pas que peut faire la littérature et pas seulement les essais, c'est d'élargir l'enclos, qu'on puisse aller pécer plus loin, hein, se nourrir avec une herbe un peu moins racornie, un peu moins sèche, quoi.
Ouais. Ce que vous dénoncez, c'est au fond c'est une hyper technicisation des questions, alors que vous ramenez de la politique. C'est ça le travail que vous faites dans ce livre ?
Ramener de la politique, c'est ramener en littérature, c'est ramener du sensible. C'est indissociable.
Ouais. Mais comment vous expliquez, parce que vous le dites un moment, hein, c'est dingue, je crois que vous dites le nombre d'idées qui ont été balancées en 15 ans dans l'éducation nationale, et puis vous ajoutez un peu quelque part, c'est fou ce qu'on a pu se foutre de nous aussi avec ça. Donc ce fait de, effectivement, saupoudrer dans une institution qui part quand même en lambeaux, à vous lire des fois... des petites idées qui ne permettront pas de ressaisir ce qu'il y a de sensible, de vivant là-dedans. Et on a l'impression que, quand même, vous-même, à un moment, il y a un chapitre où vous dites, au fond, si j'essaye de définir mes collègues, les profs, ils sont imperturbables. Vous avez ce mot, alors que, voilà, comme vous dites, il y a des licenciements là, il y a des restructurations, des suicides au travail, des soulèvements aussi. Et les profs restent imperturbables. Comment vous expliquez ça ?
Pas parce qu'il y a le statut encore qui a l'air solide comme ça, quand même, le statut de fonctionnaire, hein, je crois. Hein. Et le fait que, par exemple, c'est une supposition maintenant, mais je me souviens qu'on avait eu à un moment une conversation devant la machine à café avec une autre collègue qui était un peu, voilà, qui sentait que ça n'allait pas. Et à propos des enfants, d'un coup, on s'est mis à parler un peu fort. La salle des profs était juste derrière. On a dit, ah, tu vois, les enseignants, en fait, ils s'inquiètent pas pour leurs enfants. Ils pensent que tout ira bien, hein. Oui, mais non, mais les enseignants, ils n'ont pas d'enfants, parce que s'ils avaient des enfants, ils seraient quand même davantage inquiets. Et on disait ça très, très fort. Et il y avait un grand silence massif derrière. Parce que réellement, la suite des études se profile à l'horizon, là, et c'est déjà effectif, les enfants d'enseignants, je ne suis pas sûre qu'ils s'en sortent davantage. Parce qu'il va falloir de l'argent pour payer les études maintenant. Or, c'est pas un salaire ou deux salaires de profs qui vont suffire à payer des études brillantes dans une école de commerce brillante, quoi.
Mais ce que vous peignez, c'est aussi une éducation nationale qui cultive, enfin en tout cas des enseignants qui cultivent un amour de la loi et de l'ordre. Vous revenez sur cette histoire de devoir de réserve qui n'existe pas pour les enseignants alors que tant d'entre eux y croient et le brandissent. Vous évoquez un rapport à la norme plus globalement. Autour de la folie de l'évaluation, qui manifeste aussi ce goût de la reproduction d'un modèle d'autorité.
On est des anciens bons élèves. Moi, la première. Enfin, pas en maths, hein. Je rassure tout le monde. Mais j'ai un parcours tellement téléguidé. Voilà, t'es bon en français, hop là, on y va, quoi. Hein. Comme par hasard, je suis devenue écrivain, après tout. Mon parcours, il est assez moyen classique, hein. Sauf que, bon, mes livres sont un peu, voilà, quoi, un peu débordants. Mais faut se faire violence, presque, quand on est comme ça, hein, quand on est dans cette voie royale de la fonction publique et de l'enseignement, qui est confortable encore aujourd'hui, hein, sauf pour ceux qui arrivent, où là c'est assez terrible, puisqu'il y a de plus en plus de démissions pures et simples chez les enseignants jeunes, hein, tellement le travail est devenu difficile, tellement il commence à y avoir une forme de maltraitance au travail, hein, parce que il y a trop de fonctionnaires, donc il y a aussi trop de fonctionnaires dans l'éducation nationale, et il faut qu'ils partent.
Vous indiquez on en parlait tout à l'heure et vous indiquiez des chiffres même. Moi, je ne connaissais pas.
Depuis quelques années, il y a 1500 à 2000 enseignants, fonctionnaires, qui démissionnent. C'est-à-dire que c'est pas une mise en disponibilité où on peut après réintégrer l'année d'après, choisir. C'est des démissions sèches.
Parce que vous dites à un moment que être fonctionnaire, c'est tu t'adaptes plus ou moins. Ce qui laisse aussi l'idée qu'il y a des formes de résistance, plus ou moins passives d'ailleurs. Vous, on a l'impression que votre forme de résistance, ça a été de faire que court. De jamais accepter de présider un conseil d'administration, de faire un emploi du temps, de changer une serrure, comme vous dites. Et ça, du coup, ces sortes de petites résistances passives, c'est plus possible ?
Ça dépend. Alors le problème, c'est que ça dépend des établissements, ça dépend de la ville, de l'endroit, ça dépend beaucoup du chef d'établissement. C'est très. Il n'y a pas de. En ce sens-là, il n'y a plus du tout, il n'y a pas du tout, encore moins qu'avant, d'homogénéité dans tout ça. C'est-à-dire que je vis dans une ville où il y a deux collèges qui sont séparés de quelques dizaines de mètres. Hein. La politique d'établissement du collège A est très différente de la politique d'établissement du collège B. Tout a été comme ça un peu fragmenté, un peu. Donc c'est difficile de tenir un discours général, au fond, sur ce qui est en train de se passer. Par exemple, dans le livre, je raconte. Il y a quelqu'un de ma famille son fils à l'époque était au, il y a très peu de temps, il y a 2 ans, était au collège et elle m'appelle en me disant tu veux pas venir parce que là le bulletin on vient de le recevoir et je le comprends pas, le bulletin scolaire. Donc, je dis bah oui, on va voir, c'était pas l'établissement où j'exerçais, c'était l'autre à côté. Elle me tend une espèce de double feuille à 4 recto-verso, plein de couleurs, de camembert, de notions. Il a fallu que je charge dans le... pour comprendre ce que ça voulait dire. Et je me suis penchée dessus, sérieusement. Je lui ai dit, écoute, tu comprends pas, mais moi non plus. Voilà. Ça, c'est l'expérience. Alors, bon, donc ça permet de relativiser quand on a quelqu'un qui est enseignant dans la famille. Mais quand même, ce dont fait état à un moment le livre, c'est le désarroi des parents quand même, hein, de pas mal de parents qui ne comprennent plus. Alors que la réforme Parcoursup lycée, c'est...
Mais plus globalement, oui, pour revenir sur ce rapport à l'autorité, au fond, que vous placez en regard d'un goût plus général, social aussi, pour une soumission à l'autorité, vous avez un très beau passage dans lequel vous racontez un examen au cours duquel il s'agit de montrer, au fond, à l'élève que être du côté du narrateur et de l'auteur, c'est pas forcément être du côté du prof, du maire et de la police. Et au fond, vous en faites, c'est autour de la lecture d'un livre de Maïlys de Kerangal, vous en faites un lieu d'apprentissage de ce que c'est bien lire, mais alors du coup aussi de ce que c'est se révolter, enfin savoir se confronter à cette autorité.
Oui, il y a une sorte de... Ah, je pense que c'est aussi, c'est au moment où je fais passer le bac à l'oral. C'est un moment particulier avec un jury, donc ça ne signifie pas forcément... Il y a plein d'hypothèses possibles, hein, sur le fait que sur ce passage de Corniche Kennedy, qui est ce livre de Maïlys de Kerangal, où les jeunes à Marseille sautent de manière illégale, on va dire, dans la mer, en prenant des risques et tout ça, et donc le maire de l'époque, Gaudin, la police, tout ça, veut mettre un terme à cette histoire. Donc le livre raconte ça, et évidemment, le texte est assez... Le passage est assez complexe, mais quand on fait ce qu'on appelle du close reading, l'explication de texte, on sent bien que de quel côté, au fond, elle a la position du narrateur, de la narratrice. Et quasi systématiquement, les élèves sur lesquels auxquels je proposais de revenir sur ce texte-là se plantaient, faisaient un contresens. Alors, ce n'est pas forcément que le prof leur avait suggéré d'être prudent et de dire plutôt que oui, la police avait raison au fond et que ces jeunes, vraiment, il fallait qu'ils soient, que ça soit plus sécure, comme on dit aujourd'hui et tout ça. Donc après, en reprenant le texte avec eux, ils comprenaient qu'ils avaient fait un contresens. Mais je pense que l'examen, l'oral, c'est du côté de la norme, de la loi, c'est intégré. Et il y a un bug, c'est impossible qu'en situation d'examen, vous soyez amené à dire que la police a tort. Ça, c'est intéressant, vraiment. Heureusement, maintenant, on a de la littérature patrimoniale. Donc, je pense que ce genre de texte-là va être prudemment écarté, peut-être, dans les années à venir.
Ça veut dire quoi, la littérature patrimoniale?
Ah, ben, c'est les derniers, ça s'appelle plus classique, maintenant, ça s'appelle patrimonial. Voilà.
Mais est-ce que, quand même, parce que vous dites un moment que vous allez jusqu'à dire que les profs ont un point commun avec les gendarmes mobiles, c'est-à-dire que, est-ce que vraiment la tâche émancipatrice du professeur n'est plus du tout possible ?
Alors oui, bon, ça c'est aussi c'est le côté fantaisie réaliste critique, hein, on a le droit à l'hyperbole. Et,
Non, mais c'est comme vous dites, ouais. Que il y a les deux, je vous laisse dire ce qu'il y a d'autre.
Bah, la présence de la police, l'arrivée de la police dans les établissements scolaires est quelque chose de fascinant, quoi, et très intéressant au fond, parce que comme je suis j'enseigne depuis longtemps, il y a eu tout un moment où on ne les voyait jamais, hein. Ou alors vraiment, je sais pas, il devait passer par un trou de souris. Et puis, alors évidemment, avec les attentats, bien entendu, hein, là, voilà, ils sont arrivés de plus en plus souvent, y compris dans cet établissement d'une petite ville de province lointaine. Et voilà, donc ils arrivent. Et puis, et il y a cette présence-là est devenue naturelle en quelques années. Voilà, ils passent, et puis je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Ils vont s'entretenir sans doute avec le chef d'établissement sur tel ou tel point. Ils viennent faire l'information sur ce que je raconte, sur la drogue. Donc,
qui
intéresse beaucoup évidemment les adolescents, puisqu'ils en savent beaucoup plus sur les nouvelles drogues, et la législation et les effets, tout ça. Il y a une description très très précise. Il y a quelqu'un de très compétent dans la police nationale qui vient chaque année pour... faire ce cours d'information sur les drogues. Voilà, la présence de l'autorité la plus autoritaire est devenue... Ça va de soi.
On voulait quand même parler un peu de littérature.
Ah oui, quand même un peu, oui.
C'est quand même... Enfin, c'est ce que vous avez pointé au début de cet entretien, en disant que le travail de la littérature, ça consistait à ouvrir, justement, à ouvrir des endroits trop, trop clos. Mais en même temps, vous dites, la littérature, elle est peut-être pas à l'école. Vous me dites même que, au fond, l'école, c'est un des lieux où, où la littérature est amortie. Vous racontez un épisode d'une cérémonie en l'honneur de Victor Hugo, enfin d'un personnage des Misérables, et où on lit ou est lu un extrait de Hugo et des Misérables, à un moment où on est en plein soulèvement dans le pays et où visiblement ça percute pas, ça connecte pas, comme s'il y avait quelque chose qui était éteint dans cette peut-être patrimonialisation de la littérature que vous évoquiez tout à l'heure.
Ouais, c'est le passage émeutier de c'est Gavroche, etc. Mmh. Hein, donc, et puis c'était en effet au moment des Gilets jaunes, et donc quelques élèves se succèdent pour lire ce passage, et les réactions du public, c'est « Oh, qu'est-ce qu'ils lisent bien ?» Alors c'est ça que ça veut dire. Mais je pense que cet amortissement de la littérature dans certaines institutions, grosses institutions, est sans doute dû en partie au fait qu'on garde depuis au moins Flaubert, mais peut-être avant, la littérature dans une sorte de bercail esthétique, quoi. Hein. C'est malgré tout, même si c'est en train de bouger, hein, c'est en train de pousser. Il y a de plus en plus de livres au fond qui bouscule un peu la porte d'entrée, hein, qui vont voir ailleurs, du côté des sciences sociales, ce que j'essaye de faire, je ne suis pas la seule. Mais malgré tout, il y a une vieille habitude comme ça, hein, scolaire, hein, de scolarisation de la littérature, qui fait que ça la maintient dans une forme de... On la goûte, vous savez, hein, on jubile, on la goûte, elle a tel goût, tel autre goût, elle est belle de ce côté-là, puis alors on penche un peu de ce côté-là, puis ça fait encore plus joli, enfin bon, c'est le côté cerise sur le gâteau. Il y a encore cette vision-là de la littérature, et quand je me suis un peu penchée sur le cas Proust, je me suis intéressée à la réception actuelle de Proust, et c'est vrai, la réception un peu, entre guillemets, grand public, hein, et c'était très 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 marqué encore par « Ah, il aime les fleurs et les parfums », ok, quoi, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est méchant. C'est quand même quelqu'un de très méchant, Marcel. Et ça, c'est tout ce qui sort, qui bouscule un peu le bercail esthétique, il faut vraiment mettre un sacré coup de pied dedans pour que ça respire. Sinon, on étouffe, hein.
Justement, votre livre sur Proust, il était publié là aux éditions La Fabrique comme Hamster à l'école, mais vous publiez aussi chez POL, qui est une émission.
C'est pas aussi, c'est mon éditeur historique.
C'est votre éditeur historique, c'est principalement. Ouais. Justement, pour vous, il y a des textes qui seraient plus littéraires qui iraient chez POL et des textes qui seraient plus jonction sciences sociales et littérature qui iraient à La Fabrique. Enfin, comment vous choisissez ?
Eh ben, ceux qui devraient, enfin, je caricature, hein, mais ceux qui devraient logiquement sortir à La Fabrique sortent chez POL, et ceux qui devraient logiquement sortir chez POL sortent à La Fabrique. Pour c'est-à-dire que, par exemple, un livre comme Tomate ou Que faire des classes moyennes, où il y a vraiment des jointures avec presque la critique sociale ou l'essai ou je sais pas quoi, sont sortis chez POL, voilà, parce que c'est des livres... Enfin, moi, je fais que de la littérature, en réalité. Ouais. Hein, j'ai aucune prétention à aucune science. J'ai pas de formation du tout, c'est pas mon truc, quoi. Hein, bon. On peut même juger que je suis très, très légère sur l'éducation nationale, au fond, hein, et sur tout ce que... Et encore plus sur les classes moyennes. Voilà, j'ai fait ça à la truelle, hein, d'une certaine manière. Et chez... à La Fabrique... par exemple, « Hamster à l'école », c'est vraiment un livre de littérature entre nous. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de... C'est encore un peu marginal, mais de se reconfigurer chez les éditeurs de littérature et de sciences humaines qui est très intéressant en ce moment. Par exemple, chez Amsterdam, qui est un éditeur plutôt de théorie, etc., il y a une petite collection qui est super, qui sort des textes intermédiaires comme ça, hybrides, comme on dit, des textes de Chauvier, l'anthropologue, mais qui sont aussi des textes littéraires. Ce texte incroyable de Christophe Hannah qui s'appelle Argent, qui est aussi un texte littéraire. Et c'est ces circulations-là qui me semblent nourrir, faire, et pas seulement mettre un coup de peinture fraîche en se disant tiens, on va apporter des ressources supplémentaires, ça va mettre un petit peu de fond de teint à cette pauvre littérature qui est en train de s'asphyxier dans son coin. Et là, il y a quelque chose d'une circulation qui fait que la littérature peut vraiment à nouveau être adressée, datée, d'intervention vivante. Voilà.
Alors formellement même, ça se marque, il faut quand même qu'on en parle un peu, puisque ça prend la forme de réflexion, enfin d'un texte qui s'écrit en vers. Donc il y a un marquage même formel de... c'est pas un essai comme les autres. C'est un essai qui prend. Qu'est-ce que cette forme versifiée, elle vous permettait de faire ?
Alors ça, c'est vraiment la cuisine. C'est-à-dire que le texte, il a eu plusieurs versions. Il y a eu une version très prose, voilà, courante, un peu comme ça, puis ça marchait pas. Tout était pris dans une espèce de flux, un peu, je sais pas, il y a quelque chose qui marchait pas. Je me disais, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et à un moment, j'ai décidé de couper cette prose, en fait. C'est pas vraiment des vers, hein. Moi, je dirais que c'est plutôt une prose qui est coupée à certains moments. Alors, pas n'importe lesquels. C'est-à-dire que il y a plusieurs solutions pour couper une prose, on va dire. Hein. Mais en gros, il y en a deux grandes. Soit on la coupe sans trop réfléchir à la fin d'un complément. Voilà, logiquement, on respecte la syntaxe française, de la phrase française. Alors on coupe après le sujet ou après le verbe, puis hop, on passe à la ligne, genre les anciennes machines à écrire, la loupe, là, comme ça, sans trop. Et puis, il y a une autre solution qui est de couper à des moments où ça coupe pas. En plein milieu d'un complément, après une conjonction, pile après une préposition. Hop. Donc, merde, c'est quoi la suite ? Et hop, voilà. Et ça met en bout de ligne des mots qui, en général, n'y sont pas. Alors, c'est un vieux truc, hein, je veux dire, fin du 19e, les poètes un peu sensés, ça fait longtemps qu'ils ont fait ça. Mais là, ici, ce qui s'est passé, c'est que, si on regarde bien, il doit y avoir quelques exceptions, parce que je suis pas d'une rigueur effrayante, on va dire, mais en chaque bout de ligne, à chaque fois, c'est un mot d'une classe grammaticale différente, c'est-à-dire, ligne 1, on a un nom, ligne 2, on a une préposition, ligne 3, on a un verbe, ligne 4, on a une conjonction, etc.
Une ouverture de guillemets.
Voilà. Ça peut même se terminer sur un tiret. Pourquoi ? Parce que ça donne une dynamique au texte, une énergie qui n'y était pas comme ça, un rythme qui n'y était pas avant, où c'était plus conventionnel dans la coupe et dans le rythme, quoi, peut-être. Voilà, c'est la raison pour laquelle le livre est composé comme ça, du début à la fin.
Une dernière question, pas sur le livre, mais comment vous comprenez que depuis maintenant quelques mois, l'école manque à tant de gens ? L'université, enfin tout le monde au fond se plaint ou que les universités soient fermées, que les écoles risquent de fermer. Alors que voilà, vous décrivez quand même une situation, une institution pas en très bon état.
Bon, il y a d'abord ce que tout le monde a compris, et ça c'est merveilleux de l'avoir compris, que l'école elle sert à garder les enfants. Pendant que les gens vont travailler. Ça, c'est un truc totalement godardien. On ne s'imaginait pas quand même à ce point-là. Et là, maintenant, c'est clair. L'école, c'est la garderie des enfants et des adolescents jusqu'à ce qu'ils puissent se garder eux-mêmes. Bon, c'est super. Merci, Covid. C'est la seule chose positive du Covid, peut-être, mais ça, c'est clair maintenant. Les choses sont claires. Après, ce que dit le livre est un objet physique. Voilà. C'est que c'est physique. L'enseignement, c'est physique, c'est des corps. La transmission, elle se fait, ok, par la parole, et la parole, c'est physique, hein. La voix, elle est en postillonne, hein, comme chacun sait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est à distance. Et puis, elle se fait par un coup d'œil, hein. Voilà, il s'ennuie, hop là, il faut le rattraper. Ça, c'est très fin, ça, hein. Comprendre à un moment, dans une classe, à un moment, ça se relâche un peu. Ouf, là, ils y sont plus. Alors, hop, on va relancer autrement. Ça, c'est des micro-gestes, c'est des micro-choses physiques, d'attitude, de montée des bavardages ou de descente, quand on dit un truc un peu plus intéressant. Il y a toute une physique de l'enseignement. C'est la transmission, c'est ça aussi, je ne sais pas comment dire, mais vraiment, et là, on s'en est vraiment rendu compte. Particulièrement dans le secondaire, hein, puisque c'est là que j'enseigne, mais ouais, sans corps, ça. Bon, il doit rester, allez, je sais pas, peut-être, 20% quoi, de ce que vous transmettez, là, le fameux savoir, ou je sais pas quoi, les compétences qu'on est censé transmettre. Mais tout le corps qui permet cette transmission-là du savoir, s'il saute, il reste quoi ? Il reste un os. Et un os sans chair, sans muscles, dévitalisé. C'est ça que l'enseignement à distance ou le confinement nous aura appris, ou en tout cas ça m'a appris ça, clairement.
Eh ben merci d'être venu porter une parole physique en chair et en os dans notre studio du passage Brulon. Un hamster à l'école, ça vient d'être publié aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup.
Merci.